Vous écoutez France Culture. Le journal est présenté par Lucas Caltritier.
Bonjour. Nous irons au Caire dès le début de ce journal. 40 personnes ont été tuées en Égypte suite à l'attentat d'hier près des pyramides de Gizeh. Cette opération ultra-violente a été mise en scène par le ministère de l'Intérieur égyptien. Ensuite, direction la République démocratique du Congo. L'élection présidentielle se tient demain. Le scrutin a été reporté plusieurs fois et la fin de la campagne ne laisse pas présager un apaisement de la situation dans le pays. En France, l'affaire Benalla ressurgit. Cette fois-ci, il n'est plus question de violence de la part de l'ancien conseiller d'Emmanuel Macron, mais de l'utilisation de passeports diplomatiques dont il serait toujours en possession, alors qu'il avait dit le contraire cet été devant le Sénat. Et à la fin de ce journal, vous retrouverez la bulle économique. Aujourd'hui, Marie Viennot s'est penchée sur les crimes environnementaux et sur le marché du tigre en Europe. 40 personnes tuées en Égypte après l'attaque hier soir d'un bus de touristes. L'attentat a fait 4 morts, 3 touristes vietnamiens ainsi que leur guide. L'explosion a eu lieu non loin des célèbres pyramides de Gizeh au Caire. Une opération d'ampleur donc qui pose de nombreuses questions sur les méthodes jugées ultra-violentes et contre-productives du ministère de l'Intérieur égyptien au Caire. La correspondance de François Hume Ferkataji.
Quelques heures après l'attaque d'un bus de touristes, la police égyptienne annonce avoir tué 40 personnes, 30 à Gizeh, dans la capitale, et 10 dans le Sinaï. Le ministère de l'Intérieur estime avoir éliminé, je cite, « des terroristes qui préparaient des attaques contre la police et des lieux de culte chrétiens pour les célébrations des fêtes de Noël ». Le Noël copte orthodoxe se fête au début du mois de janvier en Égypte. Le communiqué est accompagné de 30 photos montrant des cadavres touchés par des balles dans la tête ou dans le dos. À leur côté, des armes. L'Égypte est régulièrement accusée de procéder à des opérations antiterroristes opaques et ultra-violentes qui s'apparentent à des actes de vengeance. L'intention est avant tout de montrer au peuple comment les autorités contrôlent la situation, explique Odette Berkowitz, analyste spécialiste des questions de sécurité dans la région. À la suite de ces raids policiers, pratiquement systématiques après une attaque terroriste gênante pour l'image du pouvoir, très peu d'informations précises sont communiquées. L'identité des victimes, les circonstances des fusillades. Plusieurs fois, des incohérences et même des mises en scène grossières ont été repérées par les experts qui suivent le dossier de façon indépendante. Cette fois néanmoins, cette opération n'a pas eu lieu dans une zone désertique mais dans un quartier très densément peuplé. Les habitants, des témoins, pourraient donc donner plus de détails sur la nature des opérations dans les prochaines heures. En tout, depuis 2014, 294 présumés terroristes ont été tués lors de 35 opérations. Dans seulement 3 cas, les policiers sont parvenus à arrêter les suspects.
François Hume Ferkataji depuis le Caire. Au Yémen, les rebelles houthis entament leur retrait du port d'Hodeïda. Tout cela se fait dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a 2 semaines en Suède sous l'égide de l'ONU. L'accord prévoit également le retrait des forces présentes dans les ports de Salif et de Rassissa, voisins de celui d'Hodeïda. 40 millions d'électeurs sont appelés aux urnes demain en République démocratique du Congo. Le scrutin a été reporté à plusieurs reprises. Il se déroule dans un contexte de violence électorale et d'entrave au déplacement de candidats. L'élection est également marquée par la mise à l'écart des observateurs occidentaux et ce, au nom de la souveraineté nationale de la RDC. L'actuel président congolais, Joseph Kabila, au pouvoir depuis près de 20 ans, ne pouvait pas abriquer un troisième mandat. La constitution du pays l'en empêche, mais pas de quoi quitter totalement le pouvoir non plus. Il dirigera, mais en coulisses, et il s'est choisi un dauphin sur mesure, son ancien ministre de l'Intérieur, un fidèle du régime. Et si nous dressons le bilan de cette campagne qui s'achève, nous retiendrons les discours belliqueux des candidats de l'opposition qui laissent craindre de nouvelles tueries après l'élection, Marouaman.
C'est l'élection de tous les dangers. Les voisins de la RDC l'ont bien compris. Le scrutin de dimanche a fait l'objet d'un mini-sommet qui s'est tenu en milieu de semaine à Brazzaville, capitale de la République voisine du Congo. Car les pays riverains de Kinshasa sont très préoccupés par la bataille sans merci que se sont livrés les candidats plus que jamais déterminés. Aucun d'entre eux ne semble vouloir concéder une défaite au risque de provoquer l'embrasement du pays et d'une partie de la région, où la RDC a 9 voisins et presque autant de problèmes et de sources de conflits. À l'est, elle est débordée par les guerres ethniques du Rwanda et du Burundi. Au nord, par le conflit au Soudan et en Centrafrique, l'Angola également ne cache pas son inquiétude en raison de la présence en RDC de centaines de milliers de réfugiés, dont de très nombreux militaires et parfois même des génocidaires devenus chefs de guerre facilement corruptibles qui pourraient se rendre disponibles et au service des candidats qui refuseraient d'accepter leur défaite.
Les précisions d'Omar Waman. Des élections se tiennent aussi au Bangladesh, des élections législatives où 600 000 hommes sont mobilisés pour assurer la sécurité. Il s'agit du niveau de sécurité le plus élevé en fonction de la capacité du pays, selon un responsable de la commission électorale. Le leader de l'opposition et des rebelles arrêté au Soudan dans les manifestations anti-gouvernementales. Nous en sommes au 10e jour de protestation contre la hausse du prix du pain. Au moins 19 personnes, dont deux membres des forces de sécurité, ont été tuées selon un bilan officiel. Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU a appelé au calme et à la retenue. Au Brésil, le médium accusé d'être prédateur sexuel inculpé pour viol. Celui qui se fait appeler Jean de Dieu, 76 ans, est accusé d'agression sexuelle par plusieurs centaines de femmes. Il était en détention provisoire depuis plus de 10 jours. Il pratiquait de prétendues guérisons spirituelles dans son temple près de Brasilia. Il a été inculpé pour 4 crimes commis cette année. Vous pensiez que l'affaire Benalla était terminée? Eh bien non, la polémique continue de prendre de l'ampleur après les dernières révélations du Monde et de Mediapart concernant un voyage au Tchad de l'ancien conseiller du président. Alexandre Benalla disposait de 2 passeports diplomatiques qu'il n'a vraisemblablement jamais rendus et qu'il a continué d'utiliser jusque récemment. Laura Dulieu, bonjour.
Bonjour.
Les réactions politiques se multiplient et plusieurs questions se posent désormais sur ces fameux documents.
Oui, Alexandre Benalla aurait dû restituer ces 2 passeports. Il avait déclaré sous serment qu'ils étaient restés dans son bureau à l'Élysée. Le Quai d'Orsay, de son côté, lui avait envoyé 2 lettres pour demander la restitution des documents, lettres restées sans réponse. Mais selon le député du Rassemblement National et également avocat Gilbert Collard, le Quai d'Orsay n'a pas tout fait pour reprendre ses passeports.
Pourquoi il a pu les conserver encore ? À supposer qu'une mission à laquelle serait attaché un droit de passeport diplomatique était terminée. Et je me permets de faire observer que la pratique, quand on veut récupérer un document, c'est de faire une sommation interpellative par huissier, avec sommation d'avoir à remettre les documents, ce que le Quai d'Orsay aurait dû faire. Envoyer un huissier à M. Benalla, en lui faisant sommation d'avoir à restituer les passeports.
Et selon Laurent Saillet, porte-parole du parti Les Républicains, malgré les enquêtes, les auditions à l'Assemblée nationale et au Sénat, une grande opacité continue de régner sur cette affaire.
Au début de cette affaire, on avait l'Élysée et le ministère de l'Intérieur qui se renvoyaient la patate chaude, chacun disant que c'était la faute de l'autre. Et maintenant, nous avons l'Élysée et le Quai d'Orsay qui se renvoient la patate chaude à nouveau. Donc je pense que tout ceci n'est pas très crédible. Il faut que le président de la République dise exactement qui était M. Benalla, pourquoi avait-il tant de privilèges et pourquoi aujourd'hui bénéficie-t-il d'une immunité.
Le Quai d'Orsay a finalement décidé hier de saisir le procureur de la République pour non-restitution de ses passeports.
Merci Laura Dulieu. Nous l'avons appris il y a quelques minutes, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour abus de confiance. Nous avons des nouvelles d'Emmanuel Macron. Le président de la République avait quelque peu disparu depuis son déplacement au Tchad juste avant Noël. Il se reposait à l'ombre des regards et aussi des polémiques. Mais où ? Telle était la question. Emmanuel et Brigitte Macron ont été aperçus hier en fin de journée dans le centre de Saint-Tropez dans le Var. L'Élysée affirme que la pause du président prendra fin demain soir. L'acte 7 du mouvement des Gilets jaunes a débuté ce matin. Timidement, il a provoqué quelques perturbations sur les routes en ce samedi de départ en vacances. Plusieurs rassemblements ont eu lieu à Strasbourg ou Rouen par exemple, mais pas de dérapage pour l'instant à déplorer. Une dizaine de personnes ont été interpellées à Amiens dans la Somme. Mais depuis le début du mouvement, le 17 novembre dernier, de nombreuses images et récits de violences se sont multipliés. Violences de la part des manifestants, mais aussi violences policières. Et certains estiment que le gouvernement n'a pas vraiment cherché à apaiser les choses. C'est notamment le cas de Fabien Jobard, il est chercheur au CNRS, sociologue de la police et de la justice pénale. Il a récemment publié avec Jacques Maillard Sociologie de la police. Je vous propose de l'écouter.
Ce qui, moi, m'a surpris, c'est que la communication des pouvoirs publics, au lieu d'être une communication allant dans le sens de l'apaisement, a été une communication qui a, je dirais, soufflé sur les braises, notamment lorsque le gouvernement ne cessait de répéter que des gens allaient monter sur Paris pour tuer des forces de l'ordre. On était, si vous voulez, dans un registre de vocabulaire qui n'était d'emblée pas celui des manifestations ou des protestations qu'elle soit déclarée ou non. On était dans un registre de vocabulaire qui privilégiait le registre militaire, et la réponse a été à la hauteur de ce que le gouvernement attisait. C'est ça qui m'a frappé plutôt. C'est cette dynamique d'escalade verbale qui s'est d'emblée traduite par un niveau très élevé d'engagement des forces.
Fabien Jobard, chercheur au CNRS, sociologue de la police et de la justice pénale. Par ailleurs, des gilets jaunes se rassembleront à Paris, place de la République, dans environ 1h30, un rassemblement non déclaré, selon la préfecture. Le parolier Norman Gimbel est mort, alors vous ne connaissez peut-être pas son nom, mais certainement son travail. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Il est donc l'auteur de Killing Me Softly, que vous entendez, ainsi que par exemple The Girl from Ipanema. Norman Gimbel avait 91 ans.
La bulle économique, Marie Viennot.
Aujourd'hui dans la bulle économique, Marie Viennot nous parle des crimes environnementaux et du marché du tigre en Europe.
Nous sommes dans la forêt amazonienne, surnommée le poumon de la planète parce que cette forêt absorbe 15% du CO2 émis dans l'atmosphère. Un poumon menacé par la déforestation, légale et illégale. L'exploitation forestière est le plus grand, le moins risqué et le plus rentable des crimes environnementaux selon un rapport publié cet automne par Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle et deux ONG. Ce rapport estime que 50 à 90% des arbres abattus dans les pays tropicaux sont d'origine illégale. Les crimes environnementaux sont très variés. Cela va de la vente illicite de bois, d'or, de pétrole, de diamants, de charbon, au marché de l'ivoire, de la corne de rhinocéros et d'os de tigre aux vertus soi-disant thérapeutiques. Cela peut être aussi le rejet dans la nature de produits toxiques, les déchets électroniques en premier lieu, dont 10 à 40% seulement seraient jetés ou recyclés proprement. Tous ces trafics financent les groupes terroristes et les guérillas. Dans les pays en conflit, la nature peut même représenter 60% de leurs ressources. En tout, le chiffre d'affaires de ces crimes environnementaux irait de 110 à 280 milliards de dollars par an, autant que le trafic d'êtres humains, mais moins que le trafic de drogue et de contrefaçon. En revanche, c'est un trafic en très grande croissance. Plus que les chiffres, toujours sujet à caution sur ces sujets, le rapport d'Interpol fournit aussi de très nombreuses cartes sur les différents flux illicites de pétrole, d'ivoire, de pangolin, ce mammifère à écailles le plus braconné du monde, mais aussi, pour revenir par chez nous, de tigres. L'environnement naturel du tigre, c'est l'Asie, ça vous le saviez, mais le marché mondial du tigre, il est, selon ce rapport, en Europe. Aujourd'hui, il y a moins de 4000 tigres en liberté. Il y en aurait au moins 7000 en captivité dans des fermes en Asie et en Europe. Justement, on ne sait pas bien. Depuis 1987, le commerce international de tigres est interdit dans les pays qui ont signé la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Mais il n'est pas interdit d'en élever en captivité si le but, est-il précisé depuis 2007, n'est pas commercial. En résumé, importer et exporter des tigres sauvages, c'est interdit, mais pas les tigres en captivité, à condition de ne pas faire de commerce. Mais pourquoi s'en priver quand un tigre vaut 22 000 euros vivant et qu'une fois mort, on peut vendre sa peau 2 000 à 4 000 euros, ses os broyés et macérés 60 euros le gramme et 100 euros pour chacune de ses griffes. On connaît ces chiffres car l'été dernier, les services environnementaux tchèques ont découvert dans une ferme près de Prague des peaux de tigre et des décoctions d'os destinées à être vendues en Europe et au Vietnam sur le marché illégal. Avec ses frontières ouvertes au commerce et sa régulation légère, notamment dans les pays de l'Est, l'Union européenne est devenue une plaque tournante du commerce d'espèces sauvages, Juge Trafic, une association spécialisée sur cette thématique. Depuis cet automne, donc, des ONG font pression sur l'Union européenne pour qu'elle interdise le commerce de tous les tigres, quel que soit leur statut, captif ou sauvage. Une pétition a été lancée, mais pour le moment, la Commission européenne a d'autres priorités. Tigres, éléphants, rhinocéros, girafes, mais plus proches de nous, abeilles, poissons, oiseaux, la Terre se vide de ses animaux et de sa biodiversité. Chaque bilan du Fonds mondial pour la nature est plus alarmant que le précédent. Mais pour le moment encore, piller la nature est une activité qui permet de forts profits pour des risques très limités. La souillée, idem, et les réseaux mafieux que traque Interpol ne sont malheureusement pas les seuls à l'avoir remarqué.
Enfin, pour terminer ce journal, un point sur la météo de cet après-midi. La France est partagée en deux, de la grisaille sur la moitié nord, du soleil au sud. Il fera 10 à Brest, 8 à Lille, 6 à Paris et jusqu'à 14 à Nice et en Corse. C'est la fin de ce journal. Il a été préparé avec Emmanuel Faucillon et Florent Bujon à la technique.